Saviez-vous que nos enfants sont en fait des athlètes de haut niveau ? C'est le sujet de ma discussion du jour. Allez, c'est parti ! Bonjour, bonjour mes championnes et mes champions, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement, de mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger et prendre confiance en nous. Si vous me découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire à la reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range les documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion et championne du monde de votre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit à l'adresse suivante, bertrandsoulier.com/bonus. Cet épisode aujourd'hui vient d'une de mes lectures. Je suis tombé il y a quelques semaines sur un article de recherche franco-australien sur les capacités physiques et sportives de nos enfants. À un certain âge, nos enfants ont un métabolisme comparable à celui d'adultes très entraînés. Oui, oui, ce sont des athlètes. Et en même temps, cette info résonnait avec mon observation des gamins et notamment de ma fille qui semble fonctionner en mode fractionné. Alterner la course toujours à fond et le repos toujours à fond. Bon, et faire ça en permanence toute la journée. Alors j'ai creusé et il se trouve que Sébastien Rattel, l'auteur de l'étude, est maître de conférence et chercheur à Clermont-Ferrand dans la même université que celle où j'ai enseigné. Il est auteur de 2 livres sur l'enfant et l'activité physique et aussi la préparation physique du jeune sportif. Un sujet qui nous interroge alors que nous sommes parents pour beaucoup. Comment on peut faire bouger nos enfants? Quel sport leur faire faire? À quel point peuvent-ils s'entraîner? Est-ce qu'il y a des moments particulièrement à risque dans leur croissance? J'ai d'ailleurs enfin compris d'où venait probablement la maladie d'Osgood qui m'a éloigné du sport à l'adolescence, car j'avais terriblement mal aux genoux. Et vous allez aussi comprendre que pour développer leurs capacités, il faut varier les sports, mais aussi les activités. Car oui, faire de la musique va les aider à bien grandir et devenir aussi de bons sportifs. C'est une discussion passionnante, mais avant, je fais une petite pause publicitaire, car oui, c'est la pub qui m'aide à financer ma vie sportive et créative et devenir aussi champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Parti. Bonjour Sébastien.
Bonjour Bertrand.
Comment vas-tu?
Bah très très bien. Une belle journée qui s'annonce, donc c'est parfait pour aujourd'hui. Oui.
Alors d'habitude, je demande toujours aux gens s'il fait beau chez eux, mais là je ne vais pas le demander parce qu'en fait on est à 3 km d'écart, parce que t'es à Clermont. Donc, moi, je connais le temps à Clermont. Hein. Aujourd'hui, on a un très beau temps. Je sais pas, c'est un beau temps. Il fait frais. Moi, je suis allé courir ce matin. J'ai pris mon énergie. Je me suis énergisé en disant aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve extrêmement important, qui commence à repointer un peu son bout du nez, je trouve, dans le débat avec les présidentielles, avec l'école. On dit qu'il faut faire le sport des enfants, il faut leur en faire plus. Il y a eu beaucoup de débats depuis le confinement. Normalement, il y a des mesures. Je ne sais pas où trop ça en est. J'ai entendu l'autre jour une prof de sport demander aux gamins de courir dans la cour, mais elle était en jean. Donc, je me suis posé quand même beaucoup de questions sur ces questions-là de sport, d'enfants, et puis de quand ils grandissent, comment on les amène vers aussi la performance, parce qu'il y a plein de parents qui écoutent, qui ont des enfants. Et moi-même, j'étais ado à une époque où je rêvais d'être un sportif pro, etc. Et je pense que tout le monde se pose un peu ces questions-là, de dire bah, qu'est-ce qu'on fait comme sport, qu'est-ce qu'on peut faire comme sport, etc. Alors, c'est vraiment un sujet qui est vaste. On va le faire en une heure pour vraiment donner un petit peu le cadre, un petit peu des choses. Et d'abord, je vais te demander de te présenter. Alors, je ne sais pas si tu as, en quelques mots, en fait, on va essayer de le faire en quelques mots pour dire et puis préciser aussi que ceux qui sont intéressés pour aller plus loin, tu as écrit quoi? Au moins 2 livres sur le sujet?
Oui, alors sur l'enfant et l'activité physique, hein, je vais parler de, pas de sport, mais d'activité physique et sportive. Donc j'ai écrit 2 livres sur le sujet. Et puis bien sûr, autour de ces 2 ouvrages publiés, des articles scientifiques, hein, parce que mon activité, je suis enseignant-chercheur à l'Université Clermont-Auvergne, maître de conférence universitaire pour être exact. Et donc mon métier, c'est de faire de la recherche, produire de la connaissance, de la vulgariser et de la mettre au profit des milieux éducatifs, sportifs, médicaux, de manière à pouvoir accompagner au mieux bah, les enseignants de PS, les professeurs d'activités physiques adaptées santé, les entraîneurs, les préparateurs physiques auprès de la population jeune à laquelle je m'intéresse depuis fort longtemps maintenant, parce que j'ai commencé à travailler sur le sujet ici même à Clermont-Ferrand, parce que à l'époque, il y avait une équipe très très dynamique autour de cette thématique de travail. Et au fil des années, ben, ça s'est un petit peu étiolé et on est en France, hein, même à l'étranger, on n'est plus trop à s'intéresser à la santé par l'activité physique chez le jeune et la performance. Donc moi, je suis un acharné parce que je suis passionné par cette population-là, parce que voilà, on est tous confrontés, même en tant que parents, hein, à tous les jours. Hein, à se demander bah, qui sont nos enfants, comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire avec eux dans leur phase de croissance et de maturation. Voilà, donc en fait, moi j'ai un parcours universitaire. Voilà, je travaille avec des équipes françaises, des équipes internationales, et donc j'essaye voilà, d'accroître un petit peu les connaissances autour de l'enfant et de l'activité physique et sportive.
Ouais. Et alors, d'ailleurs, j'ai vu un article récent. Alors, je ne sais pas si la recherche était récente, si la parution était récente, mais moi, je l'ai vu récemment, l'article, sur cette comparaison sur les muscles de nos enfants qui sont en fait des athlètes de haut niveau, qui ont des performances. J'ai envie de dire, on peut peut-être pas l'imaginer, mais c'est vraiment des athlètes, en fait, dans leur capacité.
Alors, ce sont des. Alors, pour être très clair là-dessus, bon, le nombre de muscles, hein, c'est chez l'enfant et chez l'adulte, voilà, c'est pareil, il y a pas de souci, hein, là-dessus. Par contre, le muscle va évoluer différemment au cours du développement. Donc, quand je parle de développement, je parle de croissance et de maturation. Peut-être on reviendra un petit peu sur ces concepts-là après. Mais en tout cas, métaboliquement, sur le plan métabolique, il est vrai que l'on peut comparer un enfant prépubère avant sa puberté à un athlète adulte très très bien entraîné en endurance. Ils ont les deux publics en fait ont un métabolisme qui est comparable. Voilà, ce qui fait que à la suite d'un exercice de haute intensité, lorsqu'on est amené vraiment à faire vraiment un effort intensif, ben, l'enfant prépubère récupère aussi bien qu'un athlète endurant, voilà, qui a l'habitude de faire du foncier, de l'endurance, même à haut niveau. Donc, les deux populations, en fait, ont les mêmes capacités de récupération après un effort de type très intensif. Voilà. Mais la performance sportive, elle sera toujours plus faible en moyenne chez l'enfant par rapport à un adulte parce que, voilà, la masse musculaire est bien plus faible chez l'enfant par rapport à l'adulte. Donc, la force produite, la puissance produite sera toujours plus faible chez l'enfant. Donc, la performance sportive sera toujours plus faible chez l'enfant, à part quelques exceptions par rapport à peut-être à des adultes lambda, on va dire. Mais sur un plan métabolique, c'est vrai que l'enfant, lui, a une capacité de récupération qui est extraordinaire parce qu'il a un métabolisme spécifique qui lui appartient et qui est comparable à un athlète de haut niveau endurant, très
Ouais.
endurant. Voilà.
Et j'avais envie de dire, en plus, je regarde ma fille y faire et j'ai l'impression qu'elle est sur un mode très fractionné. C'est-à-dire, je cours à fond, je m'arrête, je souffle, je repars. Je cours à fond, je m'arrête. Mais tout le temps, quand elle joue avec ses copains, ses copines dans l'école, hier on était courant, on a fait 1,6 km tous les deux. Elle a 4 ans et demi, mais c'est soit elle court à fond, elle s'arrête, elle repart, touc, 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 touc. Elle ne connaît pas le milieu, en fait. Et j'ai beau lui dire, cours un peu moins vite ou quoi que ce soit, mais en fait, j'ai l'impression que ça ne marche même pas, que ce n'est pas dans le mode de fonctionnement de l'enfant, en fait.
Oui, alors l'enfant, lui, spontanément, lui, lorsqu'on les voit s'échauffer, les entraîneurs leur disent, allez, c'est parti pour deux tours de piste. On les voit partir, voilà, tambour battant à 200 à l'heure. Donc le premier tour, ils sont à fond, et puis après, bon, mais ça se, voilà, la vitesse baisse, hein, ça ralentit. Alors déjà, ils ont du mal à gérer leur effort, en fait. C'est vraiment, nous on parle de pacing, on parle de gestion de l'allure, de l'effort. Ils ont du mal à gérer parce qu'ils ne se connaissent pas encore. Mais c'est vrai que l'activité spontanée d'un enfant, elle est plutôt de type intermittente, qui consiste à, voilà, à répéter des sprints, des courses, et puis à les enchaîner comme ça, sans trop de récupération, parce qu'encore une fois, les enfants ont une récupération qui est extraordinaire, exceptionnelle. Et donc, si on veut les suivre sur de l'intermittent, comme ça, on en est incapable. Sauf l'athlète de haut niveau qui est endurant, qui paraît récupérer plus vite et qui est capable d'enchaîner aussi assez aisément les efforts intensifs. Mais c'est vrai que pour un adulte comme moi, qui pratique un peu de sport encore, mais beaucoup moins qu'avant, je suis incapable de suivre le rythme de mes enfants parce que voilà, ils ont une récupération qui est fabuleuse et qui est unique, c'est-à-dire que l'on ne peut pas voir sur d'autres types de populations à part voilà les sportifs endurants. Voilà, donc c'est alors est-ce que c'est leur physiologie qui fait que voilà ils font naturellement l'intermittent, ils récupèrent vite, donc en fait ils enchaînent assez aisément des sprints, donc c'est peut-être une raison qui est probable, ou soit une autre raison que je ne connais pas encore peut-être, hein, mais voilà, en tout cas, je pense que la physiologie de l'exercice, elle est spécifique à eux et ça leur permet d'être facile sur ce type d'exercice.
Ouais. Alors, tu parlais de deux notions qui sont importantes. C'est vrai que sur la croissance et la maturité. Et c'est vrai que on entend souvent d'ailleurs des gens dire, peut-être c'était les anciennes pensées, en disant attention, le sport par rapport à la croissance. J'ai vu, je ne sais pas combien de publications en disant par rapport à porter du poids sur les enfants, par rapport à la croissance, des sports. Est-ce que ça gêne? Est-ce que certains sports font que les enfants grandissent plus ou pas? Tout un tas de questions comme ça, mais des trucs. Alors, est-ce que c'est des légendes? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites dessus? Et finalement, c'est quoi ces notions de croissance et de maturité?
Alors, la croissance, en fait, c'est simplement l'augmentation des dimensions d'un corps, d'un organe, d'un tissu. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est purement quantitatif. Hein. On voit nos enfants grandir, prendre de la taille, prendre de la masse, avoir des longueurs segmentaires qui augmentent, des circonférences, les diamètres. Donc là, c'est vraiment un phénomène quantitatif. Et la maturation, c'est plutôt de l'ordre du fonctionnement, c'est-à-dire ça se traduit par la progression de la fonction d'un organe, d'un tissu ou d'un système biologique. Alors, parmi les systèmes biologiques, tu as le système nerveux central, hein, qui est constitué, bah, on va dire, du cerveau, des voies nerveuses, de la moelle épinière, donc tout ce qui est nerveux. Et tu as le système hormonal, par exemple, hein, et on sait très bien que les systèmes biologiques, en fait, ils évoluent de manière différente dans le temps. On sait très bien que le système nerveux central, en fait, il mature énormément jusqu'à l'âge de 12-14 ans, mais il continue d'évoluer jusqu'à l'âge de 20-25 ans. Et donc, on a une phase importante de maturation de ce système nerveux central, on va dire jusqu'à 14-15 ans. Et sur ces premières années de la vie, il ne faut pas louper le coche parce que l'enfant a une flexibilité au niveau nerveux, ou une plasticité cérébrale qui est énormissime. Et donc, il faut absolument, à ce moment-là, proposer des activités très, très variées, donc proposer du multisport, du multi-activité, voilà, pour vraiment développer les habiletés motrices, la coordination, l'adresse, l'agilité, l'équilibre, faire appel finalement à ce système nerveux central qui est en plein développement, et donc il faut vraiment le solliciter pour augmenter finalement les fonctions à la fois motrices, cognitives chez le jeune. Mais cette maturation, en fait, elle peut être complètement décalée dans le temps. Tu peux avoir une maturation qui est plus précoce pour certains, d'autres plus tardives pour d'autres. C'est pour ça qu'on a affaire à des jeunes qui sont matures plus tôt et des jeunes qui sont matures plus tardivement. Et donc on a des jeunes en fait qui ont le même âge chronologique, mais qui peuvent avoir une maturation cérébrale ou nerveuse complètement différée dans le temps. Donc comme le système hormonal, hein, le système hormonal, voilà, il va maturer énormément à l'âge de 14 ans, 14-15 ans, au moment de la puberté, donc chez le garçon 14 ans, chez la fille aux alentours de 12 ans. Et durant cette maturation hormonale, en fait, tu as une prise de masse musculaire qui est importante. Chez le garçon à 14 ans, donc c'est là où ils vont s'hypertrophier, prendre de la force, de la puissance. Mais encore une fois, cette réponse hormonale, en fait, elle peut aussi différer dans le temps. Et on a des jeunes qui vont s'hypertrophier plus tôt et d'autres plus tard. Donc en fait, on a une maturation des systèmes biologiques voilà, qui peut vraiment être décalé de 4 à 5 ans entre deux enfants qui ont le même âge chronologique, qui ont la même date de naissance. Et c'est toute la complexité lorsqu'on est amené à suivre et accompagner des jeunes, parce qu'on a, au-delà de la croissance, eh bien, des maturations biologiques qui peuvent différer entre des enfants qui peuvent être nés la même année ou qui ont la même date de naissance. C'est tout le problème.
Mmh. Comment vous savez, en fait, ça? Comment ça s'estime? Parce que la croissance, bon, on dit on mesure l'enfant, on voit sa taille. Mais la maturation, comment ça se juge, en fait?
Alors, il y a trois types de maturation. Il y a une maturation qui est plutôt sexuelle. On voit la pilosité pubienne axiale se développer. On voit les gonades aussi évoluer. On a le développement mammaire chez les filles. Donc, c'est une approche qui est très, très médicale. Hein. C'est vraiment, ouais. Ça concerne vraiment les pédiatres. Il y a des stades de Tanner qu'on appelle, avec des stades de maturation. Et puis, c'est des niveaux de développement, mais que le pédiatre, en fait, va utiliser pour caractériser, voilà, si l'enfant est prépubère, pubère, postpubère. Donc ça, nous, sur un plan sportif, c'est pas accessible, en tout cas. Après, on a la maturation osseuse, où là, tu peux faire des radiographies du poignet. Et après, en fonction du niveau d'ossification, on peut voir si l'enfant, lui, est en avance ou en retard au niveau de son niveau d'ossification. Et puis après, donc là, c'est pareil, ça demande d'aller dans un service de radiologie en milieu hospitalier, c'est compliqué. Et après, tu as ce qu'on appelle la maturation somatique, qui est basée sur les vitesses d'accroissement des différentes parties du corps. On sait que l'enfant, lui, va grandir tout d'abord par les pieds, ensuite par les membres inférieurs, ensuite par le tronc. Et donc, en fait, en fonction des vitesses de croissance des différentes parties du corps, des différents segments corporels, on peut juger un petit peu de la maturation somatique du jeune. Et donc, après, il suffit de prendre des mesures de taille debout, de taille assise, pour avoir la longueur du tronc, la longueur des membres inférieurs. À partir de ça, on peut estimer l'âge du pic de croissance rapide de l'enfant. Et on sait que cet âge du pic de croissance rapide, hein, la poussée, on va dire, de croissance, en fait, elle a lieu aux alentours de 12 ans en moyenne chez la fille et 14 ans en moyenne chez le garçon. Et avec ça, avec des mesures de poids, de taille debout, de taille assise, on est capable, voilà, d'estimer l'âge de ce pic de croissance rapide. Et on s'en sert beaucoup dans le milieu sportif pour savoir à quel niveau de maturation somatique le jeune il se situe.
Et alors, justement, ce pic de croissance rapide et ces moments-là, est-ce qu'il y a des choses, des sports, ou est-ce que le sport, l'activité globale, ça pose problème, ça peut poser problème ou aucun problème, ou on se rend compte que ce pic en lui-même peut poser problème sur l'activité physique de l'enfant?
Alors oui, alors il y a des sports, il y a des jeunes qui vont s'entraîner à plus de 15 heures semaine, 20 heures, 25 heures semaine, c'est le cas des gymnastes. Hein. Et on sait que lorsque le volume d'entraînement est très, très conséquent, notamment quand il commence, lorsque le volume d'heures hebdomadaires commence à dépasser l'âge de l'enfant, ouais. Par exemple, si on prend un enfant qui a 12 ans et qu'il fait plus de 12 heures d'entraînement semaine, là, on commence à être sur une phase critique, c'est-à-dire faire attention. Voilà, donc ça, c'est un repère que l'on peut utiliser aujourd'hui, hein, facile. Hein, mais en tout cas, lorsque le volume d'entraînement hebdomadaire est très, très conséquent, avec très peu de récupération entre les séances d'entraînement ou très, très peu de récupération sur l'année, ça peut avoir une incidence sur le pic de croissance rapide, en tout cas sur le positionnement de ce pic durant la croissance. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 12 ans chez la fille, il peut survenir à 14-15 ans. Comme chez le garçon, en moyenne, c'est 14 ans, mais il peut être décalé dans le temps. Et c'est vrai que ça, ça a une incidence, l'entraînement intensif précoce a une incidence sur ce pic de croissance rapide. Ça ne veut pas dire que la taille future de l'enfance sera plus petite que ce qui est prédit, mais en tout cas, ça a une incidence sur ouais, la croissance de l'enfant, ça peut être retardé.
Oui, c'est un peu l'histoire qu'on voyait, on a pu entendre, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, sur les gymnastes qui finalement restent petites à un certain temps et puis d'un coup, ils ont un pic de croissance qui fait d'ailleurs que certaines ne peuvent plus, les entraîneurs ne les veulent plus en compète, on dit qu'ils ne peuvent plus faire certains agrès parce qu'elles ne passent pas comme il faut, etc. C'est exactement ce genre de phénomène en fait. Hein.
Oui, en fait, c'est souvent lié à une balance énergétique qui est négative. C'est-à-dire, quand je parle de balance énergétique, c'est le rapport entre les apports et les dépenses. Mmh. Et lorsque le volume d'entraînement hebdomadaire est très, très conséquent, ben, c'est beaucoup de dépenses. Mais si l'alimentation n'est pas appropriée, c'est-à-dire que si les apports en énergie sont insuffisants par rapport aux dépenses, la balance énergétique est plutôt négative. Et le problème, c'est que l'enfant, lui, il doit grandir, il faut de l'énergie. Mmh. Et en plus, il y a une charge de travail qui est d'entraînement qui est conséquente. Donc, si on cumule l'énergie nécessaire pour la croissance et l'énergie nécessaire pour assurer finalement l'entraînement, la charge de travail, et ben, voilà, si les apports sont insuffisants, ben, ça a un impact forcément sur la croissance du jeune.
Ça ressemble à du surentraînement en fait.
Oui, c'est du surentraînement, mais en tout cas, voilà, les apports en énergie sont insuffisants. L'enfant ne s'alimente pas suffisamment par rapport à ses dépenses. Et puis, ce qui se passe, c'est que par moment, la récupération est insuffisante. Et pour récupérer, il faut dormir. Parce que le sommeil, bah, c'est à ce moment-là qu'on récupère à la fois physiquement et psychiquement. Et dans le sommeil, il y a, on va dire rapidement, il y a la phase du sommeil lent profond, donc pendant lequel on se régénère physiquement. C'est là où les hormones de croissance sont produites énormément. Donc, c'est une phase importante pour récupérer physiquement. Et il y a la phase du sommeil paradoxal, où on dit que c'est la phase des rêves, hein, c'est le moment des rêves. Donc, c'est une phase de régénération psychique plutôt. Et il faut dormir, le jeune, il doit dormir pour récupérer. Et généralement, aujourd'hui, les jeunes s'endorment de plus en plus tard, doivent se réveiller plus tôt parce qu'ils ont le temps scolaire, etc. Donc, pour ceux qui habitent loin de leur école, doivent prendre le bus très tôt le matin. Donc, la quantité et la qualité du sommeil, par moment, sont insuffisantes pour récupérer. Donc, ça a une incidence forcément sur la croissance du jeune.
Oui, alors en plus, j'ai lu un livre qui s'appelle « Comment nous dormons », qui est passionnant sur le sommeil, qui disait d'ailleurs qu'il y a un décalage de l'horloge circadienne des adolescents, notamment, qui disait que c'était même peut-être une aberration de les faire lever très tôt pour aller à l'école très tôt, parce que par rapport aux heures de sommeil, il y a ce fameux décalage. S'ils se couchent tard, s'ils endorment tard, qu'ils ont du mal à s'endormir, et on sait que c'est le cas chez les adolescents et à partir d'un certain âge, le temps de sommeil il devient vraiment réduit parce que le matin, et moi j'en vois quand je cours des fois le matin, je me suis fait la réflexion. L'autre jour, je courais à 7h10, 7h15, il y avait des gamins aux arrêts de bus, en fait. Je me suis dit, mais ils sont levés à 6h ou 6h30 pour être là, présents à cette heure-là. Donc, ça veut dire que s'ils s'endorment tard, le temps de sommeil, il est largement inférieur aux préconisations qu'on donne pour des enfants de cet âge-là, en fait.
Complètement, parce que voilà, Bon, après, ce sont les contraintes de la vie quotidienne, hein, entre l'école, entre le fait de devoir s'entraîner par moment énormément. Donc, faut trouver un équilibre dans tout ça. Et en plus de ça, si le sommeil est insuffisant, ça peut avoir un impact sur la vigilance du jeune, l'entraînement. Et en tout cas, si la charge cognitive est trop importante, ben, c'est moins de vigilance, moins d'attention, et ça peut être une sorte de blessure. Et ça peut entraver complètement le parcours sportif du jeune. Donc, il faut être très, très attentif à ce temps de sommeil qui est important dans l'accompagnement de nos jeunes sportifs.
Il y avait aussi un truc dont j'ai eu beaucoup d'invités qui m'ont parlé de ça, c'est sur les sports où il y a le poids intervient, où il y a aussi la notion de… On parle de la gymnastique, de la ligne physique, il y a du poids, par exemple en course à pied aussi, on parle de légèreté, il faut être léger, pas lourd, etc. Où ça a des impacts aussi sur cette histoire d'alimentation, mais d'image de la construction aussi, tu peux avoir les jeunes, notamment sur l'adolescence, qui jouent aussi, j'imagine, hein, sur tout ça, que si on rajoute le sport dessus… Ça rajoute encore des choses.
Oui, après, notamment chez la fille, hein, c'est-à-dire qu'au moment de sa puberté, aux alentours de 12 ans, en fait, tu as une production importante d'œstrogènes, hein, donc on va dire les hormones féminines. Hein, donc, en fait, ces œstrogènes favorise l'apparition de masse grasse. Et la masse grasse, c'est un poids handicapant pour la jeune fille. Donc, c'est une masse inerte, handicapante. Et ça joue sur son rapport poids-puissance. Et donc, on a par moments des jeunes filles qui, ouais, qui prennent beaucoup de masse grasse et qui peut être contre-productive sur la performance sportive. Donc, il faut être vigilant, c'est vrai, sur cette prise de masse grasse à ce moment-là. Donc, et puis aussi, il faut faire attention au régime alimentaire. Il faut avoir un régime relativement équilibré. Alors, ce qui est préconisé, c'est à peu près 60% de glucides dans l'alimentation, à peu près, on va dire, 25% de lipides et puis le reste en protéines. Donc, il faut essayer d'avoir un régime alimentaire équilibré et non pas manger trop gras comme certains gens peuvent faire. Voilà, on connaît un petit peu tout ce qui est transformé, hein, toute l'alimentation transformée, l'impact que ça peut avoir, voilà, sur la santé des jeunes.
Ouais, et c'est vrai. Après, alors, est-ce que il y a des parce que j'en reviens sur ces histoires, on dit oui, il faut pas qu'ils portent de poids, de choses comme ça. Il y aurait des sports qui devraient pas faire. Alors, où est-ce qu'on peut faire n'importe quel sport un enfant peut faire. Est-ce qu'il peut faire tous les sports? Est-ce que un adolescent peut faire tous les sports? Ou est-ce qu'il y a vraiment des choses où il y a des sports qui sont plus problématiques?
Alors moi, la base, hein, c'est le multisport déjà. Je pense qu'il faut éviter une activité unique trop tôt. C'est-à-dire que le jeune, en fait, s'il veut vraiment se développer de façon harmonieuse, si on veut vraiment élargir la motricité d'un jeune, il faut qu'il touche un petit peu à tout, quoi. Pour moi, il faut faire du multisport, multi-activité, parce qu'il faut vraiment développer les habiletés sportives le plus largement possible. Alors, ça peut être apprendre à nager, apprendre à courir, apprendre à lancer, frapper, réceptionner, apprendre à glisser, etc. Donc, c'est vraiment, il faut qu'il découvre un maximum, le jeune découvre un maximum de motricité. Et après, progressivement, il va choisir son activité. Il va peut-être avoir une plus d'appétence pour le foot, pour le rugby, ou pour. Mais ça, cette spécialisation, elle doit apparaître vers les 13-14 ans, pas avant.
Ouais, d'accord.
Avant, parce que d'ailleurs, on s'aperçoit que ceux qui arrivent vraiment au haut niveau, hein, les sportifs de haut niveau, ils sont passés par du multisport très tôt. Et c'est faux de croire que plus on se spécialise tôt, plus on sera bon par la suite. Donc, il faut éviter. Alors, il y a des sports où il faut de l'hyper spécialisation très tôt. C'est le cas de la gymnastique, du trampoline, du patinage artistique ou bien de la natation, par exemple. Donc, il faut pratiquer à fort volume très tôt pour être performant. Mais quelque part, c'est au détriment finalement du développement du jeune. Alors, il faut faire attention à cette hyper spécialisation trop précoce. Il y a des activités de spécialisation. C'est pas de l'hyper spécialisation. On peut se spécialiser tôt, mais il faut essayer de compléter cette spécialisation avec d'autres disciplines.
D'accord.
Essayer d'avoir de la transversalité, c'est-à-dire entre les disciplines, parce que lorsque tu lances une balle au-dessus de l'épaule, si tu retrouves ce mouvement-là dans le lancer du javelot, dans le lancer de la balle en handball, en basket, tu peux trouver en fait de la transversalité entre les disciplines. Donc il faut jouer là-dessus. Et puis après, il faut aussi avoir à l'esprit que le système osseux, il est encore immature. C'est-à-dire que l'os, c'est du cartilage, c'est pas de l'os totalement bien formé, donc qui est en pleine, qui c'est comme du plâtre en fait. Hein, c'est comme le plâtre, c'est friable. Hein, si tu tires trop dessus, ça s'effrite. Ben, le cartilage, c'est pareil. Et donc la charpente osseuse, en fait, elle évolue. Il faut faire attention à cette charpente-là. Donc il faut bâtir encore sur un terrain qui est encore instable, tu vois, et fragilisé. Donc c'est comme une maison, hein, si les fondations sont pas bonnes, la maison elle s'écroule. Donc il faut faire attention à ça. Donc il faut éviter de proposer des activités avec de forts impacts mécaniques. C'est le cas, par exemple, de la course à pied. Si le jeune il fait beaucoup de course à pied sur un sol dur, sur du béton, il y a trop d'impact mécanique, ça peut être au détriment du tissu osseux. Il faut essayer de diversifier les activités à poids porté et non porté. Par exemple, quand tu veux faire de la course à pied à des jeunes, à côté de ça, il faut les faire pédaler, poids porté. Il faut les faire nager, poids porté. Et donc, toi, il faut proposer des activités de type croisé, c'est-à-dire triathlon. Tu as deux activités à poids porté, une non portée. Tu peux faire du duathlon aussi. Duathlon, c'est course à pied, vélo. Aquathlon, c'est course à pied, natation. Tu vois, tu peux trouver un équilibre dans tout ça pour préserver finalement la charpente osseuse de l'enfant.
Et c'est marrant parce que l'autre jour, je me suis renseigné sur un club de triathlon. Je voyais plein d'enfants qui venaient au triathlon. Quand j'écoutais l'éducateur qui expliquait, je me disais qu'en plus, ça avait plein de vertus parce que les gamins, ils apprenaient à faire du vélo, ils avaient l'équilibre. Puis, ils leur apprenaient aussi à se déplacer dans la ville en vélo, faire attention aux voitures. Plein de choses comme ça. Sur la course aussi, il expliquait ce qu'il leur faisait faire. Bon, sur natation, les lignes d'eau, c'est moins drôle. Mais en tout cas, je me disais, c'est sur le plan de l'éducation qui est plus que sportive, c'est-à-dire que sur apprendre à se déplacer en vélo dans une ville, je me suis dit, mais en plus, ça a d'autres bénéfices que juste l'activité sportive elle-même.
Ah, mais complètement. Après, ça développe aussi les fonctions cognitives, même perceptivo-cognitives, c'est-à-dire que c'est vraiment essayer. D'ailleurs, ce que l'on ne travaille pas assez suffisamment chez le jeune, c'est-à-dire cette flexibilité cérébrale, c'est-à-dire être capable de prendre la bonne décision au bon moment, de la traiter rapidement et de rendre opérationnel le plus justement possible et le plus efficacement possible l'information que tu captes, quoi. Et donc, ça, c'est du perceptivo-cognitif. Et donc, ça, c'est de l'intelligence, hein, l'intelligence du jeu, par exemple. Et quand on situe les jeunes en sport collectif, par exemple, il y a des tas d'informations à capter entre la balle, l'effet de la balle, le positionnement des adversaires, des coéquipiers. Ben ça, un jeune qui a, en tout cas, c'est cette fonction cognitive qui est développée, c'est un jeune qui sera performant forcément en milieu sportif, hein, et même dans la vie de tous les jours, de toute manière. Donc, je pense que faire du sport, faire de l'activité physique, c'est aussi non pas seulement développer les qualités physiques ou les habiletés motrices, mais aussi développer aussi ses capacités perceptivo-cognitives.
Ouais. Et c'est marrant cet exemple du sport collectif parce que il y a longtemps, j'ai assisté à un match de demi-finale championnat de France junior, un niveau comme ça, 17 ans. Et un ancien international était sur le bord à côté de moi, il y avait son fils qui jouait. Et il regardait son fils, il disait, mais ils ne savent pas réfléchir, ces gamins. Il disait, on leur fait apprendre à faire des passes. Ils savent jouer au rugby, mais ils ne savent pas réfléchir. Il a dit ça. Bon, son fils, maintenant, il est pro. Et ce n'était pas Clermont. Je peux te dire que ce n'est pas Clermont. On n'est pas dans le cadre de l'ASM, on est dans d'autres clubs qui n'ont rien à voir ici. Et quand même, lui qui était international, il voit son fils, il dit, il n'a pas dit, il est bête dans le jeu. Il a dit, on ne leur a pas appris à réfléchir. On leur a appris à faire des passes, à faire la mêlée, à faire tel truc et tout, mais pas le reste. Et il avait l'air dépité, en fait, de se dire ça. Il y a un moment, comme s'il avait raté quelque chose, quoi.
Ouais, il faut profiter de cette plasticité cérébrale et puis développer à la fois la vision focale qui est centrale et la vision périphérique. Donc, pareil, il faut essayer de développer tout le spectre visuel. Et ça, ça demande de l'investissement et à l'entraînement, on peut le faire. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup, on va dire le physique. On est là sur le développement des qualités physiques, la vitesse, la force, la puissance, l'endurance, la souplesse. Alors, c'est indispensable. Mais en amont, il faut pas oublier justement de développer ces facultés visuelles, attentionnelles, parce que ça a un impact forcément sur la performance et même peut-être ça peut éviter aussi la survenue de certaines blessures parce qu'encore une fois, quand on n'est pas capable de traiter correctement l'information et avec la fatigue au cours d'un match, par exemple, ça peut être la blessure.
Il y a quand même il y a un grand truc autour du sport, hein, c'est qu'il y a plein de parents, il y a plein d'enfants qui rêvent d'être sportifs, encore je pense, hein, il y a plein de parents qui aussi voient aussi un peu en se disant, tiens, si mon enfant fait carrière, est-ce qu'il peut faire carrière, est-ce qu'il peut le faire, est-ce que c'est possible ou pas, et j'en connais même qui parlent de projets, un peu le projet Kylian, le projet Mbappé, c'est de dire, mon fils, est-ce qu'il pourra avoir une carrière pro un jour parce qu'il en a envie, parce qu'il bouge tout le temps. Et on le voit, il y a plein de gamins qui... moi, c'était mon rêve quand j'étais gamin. À l'époque, il n'y avait pas YouTube. Donc, la profession de YouTuber ne fonctionnait pas, ça n'existait pas, mais en tout cas sportif. Et qui se disent quand même, comment est-ce qu'on peut leur amener, en tout cas, les capacités pour arriver un jour à le faire s'ils le veulent, sans leur boucher le reste autour. C'est-à-dire que c'est toujours la crainte des parents, c'est de se dire... c'est moi j'ai bien envie qu'il fasse du sport, qu'il revienne faire du sport, mais qu'il continue ses études, qu'il ait le choix, qu'il soit pas que l'un ou que l'autre en fait.
Oui, c'est très compliqué parce qu'il faut. Pour moi, il y a une éthique derrière tout ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, se permettre à un jeune voilà d'augmenter son volume d'entraînement, d'augmenter son nombre de séances hebdomadaires, etc., sans que voilà au niveau scolaire ça suive pas. Donc il faut absolument que il y a un équilibre dans tout ça, mais ça aujourd'hui, je pense que c'est assez suivi dans les structures. Ça peut être dans les pôles espoirs, dans les sections sportives, etc. Dans les centres de formation, dans les académies. En tout cas, il y a une véritable vigilance par rapport à ça, mais il faut faire très attention parce que encore une fois, si un jeune il est dans une logique de parcours d'excellence. Et que malheureusement, il est amené à se blesser alors qu'il a tout misé sur son devenir à être sportif de haut niveau. Voilà, ça peut être dramatique parce que voilà, s'il a délaissé ses études derrière. Mais donc aujourd'hui, je m'inquiète pas trop parce que ça, c'est quelque chose de voilà de il y a une véritable prise de conscience par rapport à ça, à ce double parcours, c'est-à-dire scolaire et sportif. Il y a vraiment une vigilance par rapport à la réussite dans les deux domaines.
Et d'un autre côté, je m'étais fait la réflexion aussi, parce que j'ai parlé l'autre jour avec des rugbyman, et j'étais assez étonné, parce que moi, dans le foot, ils rentrent en centre de formation ou pré-formation très tôt, les jeunes maintenant. Moi, déjà, quand je jouais au foot, j'ai des copains, enfin des gamins, on a le même âge, qui, au moment du lycée, partaient en centre de formation à Monaco, etc. Et puis lui, quand il parle de son parcours de rugbyman pro, en fait, là, c'est venu beaucoup plus tard. C'est-à-dire que très longtemps, il est resté au lycée, dans un rythme plus classique, etc. Est-ce que ça vient que le foot, ils ont pris le truc plus tôt en disant qu'il faut qu'on les forme de plus en plus tôt ou est-ce que c'est finalement il y a des sports où on a le plus le temps de préparer parce qu'il y a d'autres choses à préparer avant plutôt que juste les faire jouer tout de suite quoi.
Oui, je pense que dans les académies, par exemple, il y a vraiment une prise de conscience. Hein. De toute manière, je pense que la formation, elle doit commencer tôt. Hein. Mmh. Ça, c'est indéniable. Il faut que le jeune s'entraîne quand même. À minima avec un certain volume d'entraînement. Donc, mais en tout cas, voilà, les académies telles qu'elles existent en milieu du football font en sorte de, à la fois de proposer un volume suffisant, donc avec un entraînement quotidien avec un aménagement du temps approprié où en tout cas, il y a un temps d'école, il y a un temps d'entraînement, mais en tout cas, c'est assez bien organisé de manière à pouvoir permettre aux jeunes de se construire sur le temps l'amener à être performant plus tard. Mais encore une fois, il n'y a pas un parcours unique. Il n'y a pas une recette miracle, ça il faut le savoir. Hein. Moi, si j'avais la recette, Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de suivre certains principes. Voilà, il y a des, on amène des ingrédients, c'est comme une voilà, c'est une, et chacun fait sa popote, essaie de voilà de faire le meilleur gâteau possible, hein, de cuisiner au mieux. Maintenant, voilà, il n'y a pas de parcours unique, il y a des hauts et des bas, mais en tout cas, il faut prendre conscience que l'enfant a ses propres spécificités, qu'il a des vitesses de croissance qui sont plus ou moins rapides dans le temps. Et par moment, il faut savoir réduire la charge de travail, réduire le volume d'entraînement, surtout à une période de croissance rapide, hein, là où c'est vraiment une période critique, hein, de blessures. Donc, il faut peut-être travailler plus en qualité à ce moment-là qu'en quantité. Et le plus souvent, les entraîneurs ont le réflexe de se dire « t'es un bel enfant grandi, donc je peux augmenter la charge de travail ». Sauf que, autour des 12 ans chez la fille, autour des 14 ans chez le garçon, attention, c'est une période critique, il faut réduire un peu le volume, la charge, et pour ça, travailler plus en qualité. Et après, une fois que le jeune a fini de grandir, là, on peut progressivement réaugmenter la charge de travail. Donc voilà, il faut être logique. Pas assez, c'est pas suffisant. Trop, ça peut être à risque de blessure. Donc il faut trouver un compromis là-dedans et surtout vraiment suivre et accompagner nos jeunes de façon intelligente.
C'est marrant parce qu'en t'écoutant, je suis en train de revivre mon parcours et je me rends compte que à 14 ans, j'étais obligé d'arrêter le foot parce que j'avais mal au genou, la maladie d'Osgood avec le fameux cartilage. Mais je prenais 14 à 15 cm par an à cette époque-là, à peu près, quand on regarde, 2-3 ans, là où d'un coup, le collège, ça pousse. Et je me dis, mais à l'époque, je faisais du foot, je crois que je faisais du tennis aussi, si ça se trouve, c'est peut-être ces pratiques-là qui. Alors, je ne dis pas que ça l'a provoqué, mais est-ce qu'il y a eu trop de tensions, des choses comme ça? Peut-être que. On ne le saura jamais, on ne peut pas réécrire l'histoire. Mais en tout cas, c'est vrai que ce pic-là peut être à un moment donné, comme tu dis, ça peut être un moment crucial et que ça peut jouer le volume de sport, d'activité là-dessus, quoi.
Ah mais complètement. Tout à l'heure, je te disais que l'enfant grandit par les pieds, ensuite par les membres inférieurs et puis par le tronc. Ça a une incidence sur la survenue des pathologies de croissance. Tu parlais d'Osgood. Osgood, c'est... c'est une ostéochondrose qui se situe sous le genou, en haut du tibia, sur l'avant du tibia. Et donc, lorsque le jeune grandit vite, quand tu parles de 12 cm par an, donc sur le pic de croissance rapide, parce qu'un jeune grandit vite des membres inférieurs, tu as tout le système musculo-tendineux qui se met en tension. C'est comme un arc, en fait. Si tu allonges le manche de l'arc, la corde, elle se met en tension. Et donc, en fait, tu as d'énormes tensions au niveau des points d'attache des tendons sur les os. Et les os, c'est du cartilage, c'est du plâtre, ça s'effrite. Et donc, si tu tires de trop sur les points d'insertion des tendons, ça crée ce qu'on appelle les ostéochondroses. Et donc, cette fameuse maladie d'Osgood chez la Terre, il y en a un paquet chez les jeunes. Donc, si vraiment on augmente la charge de travail à ce moment-là, on amplifie la blessure et donc ça peut être l'arrêt total de l'entraînement. Tout comme tu as d'autres ostéochondroses au niveau du calcanéum, au niveau du talon, tu as la maladie de Sever. Donc, c'est pareil, s'il y a trop d'impact au niveau du talon, s'il y a trop de sauts, trop de réceptions, le talon, il peut s'effriter. Donc, pareil, c'est la maladie de Sever. Ça peut être aussi dramatique et l'arrêt de l'exercice. Donc en fait tu as et toi quand tu remontes, donc ça c'est les membres inférieurs qui s'allongent, ensuite c'est le tronc avec la colonne vertébrale, et la colonne vertébrale si elle peut se déformer facilement si le jeune n'est pas tenu musculairement au niveau de la colonne vertébrale, s'il n'y a pas assez de gainage, si la préparation athlétique n'est pas bonne, on peut avoir des lordoses, des scolioses. Et c'est ce qu'on retrouve aussi, c'est certains jeunes qui ont une vitesse de croissance rapide du tronc qui arrive un petit peu après les 12 ans chez la fille, un petit peu après les 14 ans chez le garçon. Donc, tu vois, c'est vraiment une période critique, d'autant que la masse musculaire, notamment chez le garçon, elle arrive surtout après un an et demi après celui de la taille. C'est-à-dire qu'on a souvent des jeunes garçons qui s'allongent, qui sont très grands, mais musculairement, ils ne sont pas formés. Quoi. Donc, il n'y a pas de tenue, il n'y a pas de protection du squelette. Et donc, tu vois, chez le garçon, entre les 14 ans et les 15 ans et demi, très peu de masse musculaire. Donc, tu vois, la charpente osseuse, elle n'est pas tenue. Donc, si à ce moment-là, on rajoute de la charge, là, on peut blesser énormément le jeune.
Alors, c'est un sujet passionnant. Et je voudrais quand même, avant de finir, qu'on reparle un peu du sport chez les enfants, parce qu'on a entendu des trucs quand même. C'était dans Emmanuel Macron, dans sa campagne, il a dit qu'il faut que les enfants fassent du sport. On se rend compte quand même, il y a eu des déclarations sur Paris 2024, on veut des médailles. Les sportifs ont dit c'est pas le système éducatif qui nous a amené à faire ce qu'on fait, à réussir ça. Il y a eu des prises de position qui sont très fortes, etc. Et est-ce que finalement, le sport en France, dans l'éducation et tout, est-ce qu'il est à cette place? Est-ce qu'il est bien fait? Parce que moi, j'ai un peu de mal à me juger, parce que moi, j'étais, il y a 40 ans, j'étais à l'école, et j'avais un super prof de sport, on faisait plein de sport, tout ce que tu disais là, on a fait du rugby, on faisait du saut, on faisait des trucs, du basket, on faisait tout un tas de sports dans une année. Mais je ne sais pas comment j'avais fait de sport quand j'étais en primaire. Et puis maintenant, quand je regarde un petit peu dans les écoles à côté, j'ai l'impression quand même que ça a un peu perdu tout ça.
Pour moi, il y a de la place, hein, parce que le sport à l'école, en tout cas l'EPS, a toute sa place pour, voilà, pour développer la motricité des jeunes. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait remettre au centre de l'EPS, en fait, le développement des qualités motrices. Et, on peut parler aussi de perceptivo-cognitif, mais je pense que l'EPS a toute sa place pour remettre, l'essentiel autour de la motricité du jeune. Pour moi, c'est fondamental. On parlait de développement du système nerveux central. Ben, à l'école primaire, hein, il faut développer ses qualités motrices et cognitives. Donc, l'EPS a toute sa place, d'autant qu'après, en sixième, à partir de la sixième, ben, tu as 4 heures de PS par semaine. Après, on passe à 3 heures. Mais en tout cas, l'EPS a vraiment un enjeu là-dessus, sur le développement de ses qualités. Et puis après, il y a le temps périscolaire, extrascolaire. Le tout, c'est de donner ou peut-être de redonner le goût de l'effort auprès de nos jeunes, parce que c'est vrai qu'on cette crise Covid n'a pas facilité les choses à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de c'est sûr que les jeunes ont été privés de structures sportives pendant un certain temps, mais je pense qu'il faut redonner le goût de l'effort aux jeunes, hein, et je pense qu'il faut que les jeunes prennent plaisir, c'est-à-dire il faut aborder l'activité par le jeu, que les jeunes donnent du sens à ce qu'ils font, et qu'on leur explique pourquoi c'est important de faire de l'activité physique et sportive, pourquoi c'est important de faire du sport, ne serait-ce que pour la santé, le bien-être physique, leur bien-être mental, mais en tout cas qu'on leur explique l'intérêt finalement de pratiquer de l'activité physique et sportive. Voilà, et c'est comme pour n'importe quelle discipline, hein. Lorsqu'on va en anglais, ben pourquoi on apprend l'anglais? Ben, lorsqu'on est amené à voyager à l'international, ben, c'est important de se faire comprendre. Donc c'est pareil, donner du sens, ça c'est important, mais ça passe par le plaisir, le progrès, par le collectif, le groupe, se sentir bien dans un groupe, avoir une bonne relation entre l'entraîneur, l'entraîné. Il y a tout un environnement qui doit être peut-être favorisé justement pour réinciter les jeunes à pratiquer, à faire du sport et à se retrouver bien dans leur peau, à la fois sur le plan physique et mental.
Et c'est vrai qu'à bouger aussi, mais j'ai vu une stat quand même, j'en parle régulièrement parce que je ne sais plus en quelle année, les États-Unis, les jeunes Américains qui étaient au collège ou au lycée, 80% y allaient à pied ou en vélo. Mmh. Et maintenant, 90% ils vont en voiture et sont posés juste devant la porte. Et moi, je le vois, ça commence très tôt parce que ma fille est à la maternelle. Nous, on l'amène à pied. Donc, on n'est pas loin. Mais mon voisin a amené sa fille dans la même école en voiture. Mmh. Oh, je ne sais pas combien de fois je les ai regardés. En plus, on arrivait en même temps. Hein. C'est-à-dire qu'on part en même temps, on arrive en même temps. Il n'y a pas beaucoup. Et je me suis dit quand même, c'est un drôle d'exemple qu'il lui donne, quoi.
Alors là, tu soulignes un point essentiel aussi, j'allais y venir, et l'activité spontanée le jeu libre doit être favorisé chez les jeunes. C'est-à-dire que certes, et moi le premier, et encore ce matin, moi quand ma fille elle est en troisième, là, je lui dis, est-ce que tu veux que je t'accompagne en voiture? Elle me dit non, je préfère marcher. Donc toi j'ai un réflexe finalement, alors peut-être de protection en tant que parent, quoi, mais voilà, je pense qu'il faut laisser cette spontanéité. Et si les jeunes ils sont capables d'aller à pied le matin à l'école, mais il faut les laisser aller marcher et aller à pied à l'école, tout comme lorsqu'on a la chance peut-être d'avoir un jardin, ben, il faut tirer une slackline entre deux arbres, et puis en tout cas, mettre à disposition l'équipement sportif pour que naturellement les jeunes pratiquent. Ça peut être cette fameuse saut à une corde à sauter, hein, et faire du saut à la corde. Ça peut être mettre à disposition une raquette de tennis, une balle, et puis jouer avec. La slackline, faire des allers-retours comme ça sur une slackline pour travailler l'équilibre. En fait, je pense qu'il faut laisser du temps libre et du jeu libre et arrêter de brider nos jeunes, parce que cette spontanéité, elle est nécessaire pour leur développement. Et je suis d'accord avec toi. Et puis, favoriser une activité spontanée, éviter ces moyens de voiture et autres pour
se déplacer. Mais je me suis quand même fait une réflexion. En mois de janvier, j'ai fait 30 km dans Clermont. Je suis passé par tous les lieux où j'ai grandi, où j'ai fait du sport. Et là où je jouais, Et j'ai remarqué un truc, c'est que les espaces où je jouais quand j'étais gamin, que je me prenais pour être un champion de foot, champion de tennis, de trucs là, n'existaient plus. C'était des parkings à la place.
Ah oui.
Là où on faisait les courses, c'était devenu des parkings derrière les immeubles, les jardins familiaux à Montferrand et tout. Il y avait tout un tas d'espaces où on pouvait jouer. Ils sont devenus des parkings, des entreprises, des routes. Et je me dis, mais le gamin que j'étais à l'époque ne pourrait plus faire ce qu'il faisait maintenant. Et pourtant, j'adorais ça. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que je fais tout pour essayer de revivre ça. Mais c'est aussi un peu la vie dans laquelle on vit, la ville, justement, elle enlève ces espaces-là de jeu, en fait, de jeu libre aux enfants en plus.
Oui, alors peut-être. Hein, alors peut-être pas toutes les municipalités ou toutes les métropoles. Je pense qu'il y a un effort quand même qui est fait de la part des politiques. Hein, ça, j'en suis persuadé. Maintenant, après, là où on a un gros effort, à mon avis, à faire, c'est les pistes cyclables, par exemple. Le vélo, aller voilà, se déplacer en vélo. Et tu vois, et ça, par contre, il y a vraiment… on est en retard par rapport à certains pays comme la Hollande. Tu vois, donc en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir une accession finalement ou une facilité d'utiliser voilà nos vélos voilà pour se rendre au travail ou à l'école quoi. Ça c'est clair hein.
Et c'est vrai et on voit il y a des en tout cas il y a des prises de position en tout cas en ce moment sur dire il faut mettre du vélo, faire plus de vélo, etc. Bon, les pistes cyclables, elles sont d'une dangerosité à des endroits. Et nous, alors moi j'habite à Cournon, il y a une piste cyclable, je ne la prends jamais et tout le monde me dit mais pourquoi tu ne pars pas en vélo? C'est parce qu'elle est dangereuse. Elle est placée par quelqu'un qui n'a jamais fait de vélo. Elle passe devant un collège en plus, donc elle est d'autant plus dangereuse pour les gamins qu'elle est vraiment mal placée parce que les voitures n'ont pas l'habitude d'avoir des vélos qui arrivent par là, donc c'est dangereux. Mais c'est vrai qu'on voit quand même qu'il y a des efforts sont faits. Bon, après, moi, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de trottinettes électriques qui roulent autour. Et je me dis, une trottinette électrique, c'est pas de l'effort, quoi. C'est, je me suis fait la remarque d'en voir tellement de trottinettes électriques. Je comprends que ce soit pratique, mais ça empêche que c'est pas la même activité que vélo, que marcher, que faire plein de sport et tout. Et moi, où je suis content, c'est qu'autour de la maison, on a quand même un terrain de basket. Alors, ma fille est un peu petite, elle voulait faire du basket. Et alors, c'était ma dernière question que j'avais. C'est vrai qu'il y a des âges où on sait pas trop quoi leur faire faire. Et c'est vrai que le multisport, finalement, c'est un peu la solution. Ma fille rêvait de faire le basket, mais le club à côté, ils n'ont pas de basket. Après, elle veut faire de la gym, on dit ça va être des parcours, des choses comme ça. Et en fait, c'est ça l'histoire. C'est d'arriver, il y a un âge où ce n'est pas si facile que ça de leur faire trouver des sports, de tester. Et donc, la solution, c'est de trouver des clubs multisports, quoi.
Tout à fait. Oui, complètement. Le multisport permet vraiment de toucher un petit peu à tout et puis de trouver cette transversalité sur le maniement de la balle, sur plein d'autres compétences à développer. Mais au-delà du sport, je pense qu'il y a d'autres activités à privilégier, comme les activités musicales, par exemple, lorsque un jeune en fait, apprend à jouer d'un instrument, il doit apprendre à bien souffler dans l'instrument, dans une flûte traversière, dans un saxophone, donc à bien se placer, parce qu'en fait, la posture aussi importante chez le jeune à travailler, donc à bien se placer, à bien souffler, à bien coordonner ses doigts sur le saxo ou sur la flûte, en même temps à favoriser tout ce qui est double tâche, c'est-à-dire à jouer d'un instrument tout en lisant une partition, à être dans un orchestre aussi, c'est-à-dire à écouter les autres, donc le collectif, le groupe. Mais tout ça, ça se retrouve finalement dans le milieu sportif. Et il y a de la transversalité. Donc en fait, un jeune qui fait de la musique, forcément, il va développer des compétences qu'il pourra réutiliser, réexploiter dans le milieu sportif. Et c'est la même chose dans les activités de type artistique, tout ça. Et donc, je pense qu'il ne faut pas voir uniquement que l'activité physique et sportive. Il y a d'autres types d'activités. Et cette approche, elle est fondamentale pour le développement du jeune dans sa globalité.
Et c'est un très beau message. D'ailleurs, j'avais remarqué au club, quand je faisais de l'athlétisme au club, qu'il y a des gamins qui faisaient de la musique, qui couraient, qui faisaient du sport, qui faisaient des trucs, qui étaient bons. J'avais l'impression qu'ils étaient bons dans tout. Mais même, il y en a un, il avait un an d'avance au lycée. Il faisait de la musique et il sautait en hauteur, je sais pas quelle hauteur, et il courait plus vite que les autres. Il me disait, mais waouh. Et c'est vrai qu'il avait toujours tout fait. Alors maintenant, je comprends un peu mieux cette histoire de globalité. Et j'avais quand même une dernière question, finalement, parce qu'on parle de jeunes, On n'a pas placé l'âge du jeune, mais à quel âge s'arrête la jeunesse, en fait, le plus vieux, enfin, le plus vieux. À quel âge on devient vraiment adulte, j'ai envie de dire.
Alors, ça, c'est une question qui est très, très compliquée. C'est difficile de répondre maintenant. Est-ce qu'on devient adulte à l'âge de la majorité, c'est-à-dire à 18 ans? C'est compliqué. Où s'arrête, quand s'arrête l'adolescence, finalement, et quand commence le stade d'adulte, finalement? Ouais. C'est compliqué. On m'a souvent posé la question, mais j'ai pas forcément la réponse. Donc quelque part, c'est une transition. Mais je dirais que le tout, c'est de rester jeune dans sa tête le plus longtemps possible.
Ouais, c'est une très belle conclusion. Parce qu'en fait, je me faisais la remarque, c'était par rapport à certains sports. On voit des gamins qui deviennent pro à 17 ans, qui jouent maintenant en Ligue 1 à 17, 18 ans, qui sont, on voit la précocité d'Mbappé, mais on avait Thierry Henry avant aussi des joueurs comme ça. En tennis, des gamines à 16 ans qui écument les circuits pro. Et c'est vrai que on dit la croissance, par exemple, je reviens sur les rugbyman, mais les rugbyman, il y en a qui disent, bon, à 22 ans, 23 ans, j'étais encore tout chétif. Et maintenant, à 25 ans, je suis devenu beaucoup plus fort, et parce qu'il y a la musculation qui joue et tout. Et c'est vrai que c'est cette histoire de croissance, de temps de croissance musculaire, de prise de croissance, finalement, on se dit que la barrière, la limite d'âge, elle est vraiment très arbitraire, quoi.
Oui, et puis c'est tout dépend dans quel domaine on raisonne. Est-ce que c'est plus sur le plan psychologique, est-ce sur le plan physique, physiologique? C'est pour ça que c'est très très complexe, hein, cette transition. Pour moi, c'est une transition qui est progressive, mais donner un âge, c'est très compliqué. Après, voilà, pour simplifier les choses, voilà, on devient adulte à l'âge de la majorité, mais je suis très peu. Je me dis que ce n'est pas forcément la meilleure manière de définir le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Donc, c'est transitoire. Et chacun, finalement, prend le temps peut-être de grandir à sa propre vitesse, quoi. Donc, je pense que c'est un petit peu individuel comme réponse, peut-être, je ne sais pas. Ouais.
Non, mais comme quoi, on n'a pas toutes les réponses. Hein. On a l'impression que scientifiquement, on sait beaucoup de choses, mais les chercheurs comme toi montrent que justement, il y a de la recherche, beaucoup. Alors, ceux qui sont intéressés par tes travaux, où est-ce qu'on peut retrouver, lire un peu ce que tu fais? Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui sont super intéressés. Je vous mettrai le lien vers l'étude, il faudra que je la retrouve, hein, parce que c'était avec un Australien, non? C'était avec qui
Oui, alors je travaille beaucoup avec l'Australie. D'ailleurs, j'y vais prochainement là, une nouvelle fois. Donc, je travaille sur le plan scientifique. Hein, donc, j'ai beaucoup de collaborations internationales avec l'Australie, l'Angleterre et des pays européens. Donc là, après, c'est de la production scientifique. Hein, donc, c'est en anglais, c'est relativement assez spécifique. Hein, donc, on a des moteurs de recherche où c'est PubMed, hein, PubMed. Il suffit de taper mon nom et mon initial, Ratel S. Et là, on voit toutes les publications que l'on peut produire au niveau recherche. Mais après, en termes d'accessibilité, on parlait des deux livres que j'ai écrits. Donc, L'enfant et l'activité physique aux éditions des Iris en 2014. Donc, ça, c'est une approche peut-être pas encore suffisamment trop vulgarisée. Mais si je recommande peut-être un livre c'est le dernier que j'ai écrit en 2018, qui s'appelle « Préparation physique du jeune sportif », édition Amphora, et on peut le trouver sur Internet comme dans des librairies. Et là, pour le coup, j'expose vraiment ma vision des choses tel qu'on a pu en discuter sur cette heure-là ensemble. Donc,
Eh ben, écoute, c'était très intéressant. Et je peux te dire d'ailleurs, c'est que le livre, j'ai trouvé en librairie l'autre jour. Donc, il est bien présent en librairie pour ceux qui cherchent. On le trouve sur les librairies numériques. On le trouve en commande sur sa librairie de quartier. Mais dans des grandes librairies, je l'ai trouvé l'autre jour en rayon sport sans aucun problème. Donc, ça veut dire qu'il était, il était là. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle d'ailleurs pour un auteur quand son livre est encore sur les tomes. Mais ça veut dire que depuis 2018, c'est-à-dire que c'est un livre qui intéresse suffisamment de monde pour qu'il soit encore dans les rayons. Et ce qui est, c'est un bon gage, moi, je trouve, de qualité, de dire qu'il est encore là.
Oui, j'ai des bons retours. Et puis, c'est vrai que les gens, ils trouvent leur, ce qu'ils ont envie de trouver. En tout cas, voilà, il y a des éléments qui, à mon avis, qui me semblent assez bien vulgarisés. Pour essayer d'optimiser un petit peu l'accompagnement des jeunes et du plus jeune au moins jeune, mais en tout cas il y a des principes à considérer dans tout accompagnement et suivi de nos jeunes sportifs, c'est indéniable. Encore une fois, l'enfant n'est pas un adulte en miniature. L'enfant est un petit homme, mais pas un petit homme. On doit reprendre la citation de Jean-Jacques Rousseau, on ne doit pas réduire l'enfant de l'adulte. Il a ses propres spécificités. Il faut vraiment connaître ses spécificités pour accompagner le mieux possible nos jeunes dans leur parcours sportif.
Et ben voilà. Et ben écoute, c'est une très belle phrase de conclusion. Je te remercie beaucoup pour l'heure qu'on a passée ensemble. Et on voit que c'est un sujet qui est très intéressant. Puis qui est vaste, qui intéresse beaucoup de gens, parce qu'on parle des parents, c'est les entraîneurs, les éducateurs, les enseignants. Il y a énormément de gens qui sont là pour accompagner les enfants, pour en faire des adultes qui vont grandir. Et puis plus tard, moi, ce que j'espère, des vieillards galopants, hein, c'est mon ambition à moi, d'être un vieillard galopant. Et j'espère que ma fille pourra faire du sport, parce que je suis convaincu qu'en faisant du sport, on a l'équilibre global qui vient, mais qu'il n'y a pas que le sport, comme tu disais, c'est un ensemble de choses. Et en tout cas, on essaye de l'ouvrir au maximum à ça. Et c'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Je te remercie d'avoir passé du temps avec nous, de nous avoir expliqué ça d'une manière très didactique. Hein. Je pense que tout le monde a compris un petit peu ces grandes phases. Et puis, nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je ne vous dis pas l'invité. Je vous dis pas l'invité parce que moi, je le sais. C'est dans mes cartons. Mais je ne vous le dis pas. Ce sera la surprise. Et en tout cas, Sébastien, merci beaucoup.
Merci, Bertrand. Au revoir.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.